CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30.
Bonjour, bonjour à tous, merci d'être fidèles au mag de CFM de midi, c'est Johan en votre compagnie jusqu'à la demi. Une émission littérature aujourd'hui, puisque mon invité est Colette Berthez, qu'on connaît bien, puisque son dernier ouvrage publié tournait autour du camp de Jude, ça s'appelait « L'exil et les barbelés », et on en avait beaucoup parlé, en particulier pour l'aspect historique qui concerne cette fond. Ce coup-ci, on est toujours dans le Quercy, on va faire un tour en Algérie en 1840, 10 ans après le début de la colonisation. On fait un retour d'ailleurs dans le Quercy et on découvre la période des phosphatières. Enfin, voilà, il y a du sociétal, mais en même temps, ce sont des personnages vivants, c'est du roman.
We walked for hours in winter's arms. Broke your ankle, you fell with pride. You sent me a picture on which you cried. It's hard not to answer, I'll give a try. I'm selfish and jealous. Is that a crime? I'm selfish and jealous. Pleasure is mine. You'll share all your secrets, and I'll keep mine. Spend life together, just we and I.
Tous les jours, 12h, 12h30.
Après le Rossignol chante la nuit, voici Les Amants de Bordeaux Rouge, Colette Berthez. Vous êtes prolifique comme auteur. C'est un roman ?
C'est un roman. C'est un roman qui était en cours depuis deux ans et demi même, que j'ai commencé au moment où je terminais L'Exil et les Barbelés sur le camp de Jude à Sept-Fonds, qui était un livre un peu difficile, entre guillemets, à écrire, vu les témoignages que les gens me donnaient. J'avais besoin de prendre l'air et je prenais l'air en commençant à travailler sur un roman de terroir, voilà.
De la fiction, c'est plus reposant par rapport à des documents dont on sait que, même si ce sont des témoignages, c'est du réel qui s'est passé, des barbelés inscrits dans la chair.
Tout à fait, c'est plus reposant parce que même si dans le roman ou dans ce qu'on trouve, il y a quelquefois des choses, parce que j'ai quand même lu des livres sur le 19e siècle, sur cette période, puisque ça se passe dans le Lot, sur les phosphatières, même s'il y a des petites choses quelquefois un peu dramatiques, ou si j'inclus des choses dramatiques qui se sont passées autour de moi ou dans ma famille, le fait d'avoir des personnages imaginaires imaginés et de leur faire vivre des aventures, leur faire vivre leur vie, c'est beaucoup plus facile que de se confronter à la réalité de vie vécue et de vie dont il reste beaucoup de blessures.
Je suis je soupçonne, je ne l'ai pas lu, votre livre, hein, vous savez comment
il vient juste de sortir.
Voilà, mais c'est toujours mieux d'interviewer quelqu'un sans avoir rien lu, en réalité, je trouve, parce qu'on pose les bonnes questions. Hein, sinon, on fait le malin en disant, et alors,
tel personnage,
c'est ça, voilà, bon. Non, non, là, vous me dites les phosphatières, une période qui a marqué le Quercy, puisque le Quercy, avant la découverte de la phosphorite, pastorale, agricole, on est à la surface, on a des paysans qui travaillent à la surface des sols, et là, Eldorado, quoi, hein, comme Cortés, quasiment.
Oui, oui, oui. Alors, les phosphatières, c'est une petite période, à partir de 1870, qui a commencé d'ailleurs du côté de Caylus, cette histoire. Hein. Mais j'avais envie d'en parler parce que c'est une période totalement oubliée, qu'on a oubliée pendant très longtemps et qui a été exhumée grâce à des passionnés dont M. Pellissier.
Thierry Pellissier, qui est directeur de la phosphatière du Club de Rome.
Voilà, qui a créé cette association avec d'autres d'ailleurs, des gens qui habitent dans le coin, à Limogne, à l'Albenque. Et quand j'ai découvert cette phosphatière et qu'ils ont remis mise en état au Club d'Aoral, qui est magnifique, qui est intéressante, où il faut vraiment aller en promenade, je me suis dit que j'avais envie de parler de cette partie du Lot que moi-même je ne connaissais pas, alors que je suis aussi originaire du Lot et que j'y ai passé une partie de mon enfance. Et disons que les phosphatières, pour moi, je n'aurais pas pu en faire un livre entier ou un roman entier, ou alors très court. J'aime les gros livres quand je lis, donc j'avais envie aussi d'écrire un gros livre. Et j'avais envie de m'attacher à des héros sur toute leur vie. Voilà, du début, de leur naissance pratiquement à leur mort. Ce que je n'avais pas fait avec le roman précédent qui s'arrêtait quand les héros avaient 30 ans. Donc on pouvait imaginer ce qu'ils devenaient après. Mais
qui se marièrent, qui eurent beaucoup d'enfants.
Et même pas, ils se mariaient et on ne savait pas ce qu'ils devenaient ensuite. Et là, j'avais envie de faire, de boucler la boucle et de commencer par la fin en fait dans ce livre et de décrire la vie de plusieurs familles du début jusqu'à la fin. Et je me suis fait plaisir en incluant là-dedans les phosphatières, puisque de toute façon l'histoire devait se passer dans le pays de ma famille paternelle, c'est-à-dire autour de l'Albenque, de Limogne, vers Cahors. Et justement, les phosphatières étaient aussi là, donc voilà, elles ont été incluses dans le roman.
Et alors comment elles interviennent dans la vie des amants de Borderouge?
Voilà. En fait, ces amants de Borderouge, c'est le fil conducteur, c'est un amour d'enfance entre deux enfants, un frère et une sœur de lait. Le petit garçon Jean-Jean est le fils de paysans sans terre, de pauvres paysans qui se louent. Ce sont des brassiers qui louent leurs bras. Et donc la maman de Jean-Jean va nourrir la fille du gros bourgeois du coin qui vit à l'Albenque dans une grande ferme, mais qui surtout sur Cahors a un commerce qui par le Lot descend vers Bordeaux et vers l'Angleterre pour le vin, le grain et voilà des tas de choses. Donc ça commence dans les années 1830. Et donc, ces deux héros, tout petits, vont tomber amoureux l'un de l'autre, vont être élevés ensemble et tomber amoureux l'un de l'autre. Et surtout Palmyre, qui est une femme, une fillette même, de passion et passionnée, elle décide que de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera Jean-Jean qu'elle épousera et que rien ni personne ne pourra... Elle a 9 ans et elle décide ça.
Des promesses de gamin, mais qui sont ancrées là dans toute une vie.
Alors pour elle, oui, pour Jean-Jean, il est beaucoup plus, il aime bien sa petite sœur de lait, il l'aime même beaucoup, plus il grandit, plus il l'aime, mais en même temps, il a les pieds sur terre, Jean-Jean, et ça l'empêche pas de vivre ailleurs et de faire des choses ailleurs. Et puis la vie les sépare. La vie les sépare par un drame qui se passe dans la famille de Jean-Jean. Il est obligé, alors qu'il a tiré un bon numéro, de se vendre pour remplacer un jeune homme qui aurait dû partir au service militaire. Et il part pour 7 ans et on l'envoie en Algérie.
Ah oui, et ça rigole pas le service militaire là.
Non, c'était 7 ans et on l'envoie en Algérie. Et j'avais aussi envie depuis très longtemps de parler de l'Algérie, qui est un des premiers pays arabes auxquels je me sois intéressée quand j'étais jeune. Et j'avais envie d'en parler. Et cette Algérie des années 1840 était l'Algérie des débuts de la colonisation, et donc où il y avait encore des révoltes, où le peuple algérien ou kabyle ne se laissait pas faire. Et j'avais envie de parler à la fois de ça,
mais on rappelle aussi que la tentative d'occupation de l'Algérie, c'est 1830.
Voilà, donc ça a commencé passé en 1830. Et j'avais envie aussi de voir comment un jeune garçon qui n'est pas un va-t-en-guerre, qui a été obligé de partir à l'armée, va se glisser dans ces conflits et dans ce pays nouveau, puisque les Français ou les émigrés créent un pays nouveau, et comment il va y faire sa place et ne pas retourner en Quercy. Comment il y fait sa place, voilà, à l'armée, puis après dans le civil. Et pourquoi un jour il revient, alors qu'il a déjà plus de 40 ans, pourquoi il revient au début des années 1870 chez lui, au moment où justement où les phosphates sont découverts. Et c'est comme ça qu'il va travailler aux phosphatières ensuite.
Bon, je vous soupçonne dans un roman avec un titre un petit peu bluette, on va dire, hein, Les Amants de Bordeaux Rouge. Bon, ça fait très
Oui.
Hein, on a envie d'une romance là quand on lit ce titre.
En fait, il y a pas vraiment de romance.
Voilà. En fait, je vous soupçonne d'avoir un tout petit peu, bon, que ça soit l'Algérie de la colonisation,
ou les phosphatières
ou la fin de l'Empire, parce que 1870 c'est pas par hasard qu'il y ait des interpénétrations sociétales au moins.
Tout à fait. Oui, bien sûr.
C'est pas politique, parce que vous y allez franco.
Là, au moins sociétal, ça c'est sûr. Politique aussi, parce que il y a des petites touches. Hein. Jean-Jean n'est pas un va-t-en-guerre, justement, et ça lui plaît pas du tout d'être à l'armée. Et c'est quelqu'un qui ensuite, entre guillemets, pactise avec les indigènes, juste puisqu'il va jusqu'à épouser ou à vivre avec une jeune algérienne, dont il a un enfant et avec qui il fait sa vie. Donc il y en avait à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. Et quand il revient, qu'il est au phosphatière, on voit aussi le travail de ces ouvriers du phosphate qui sont paysans en même temps. On y voit aussi ces émigrés qui viennent d'Auvergne ou d'Italie et qui viennent travailler là parce qu'ils gagnent plus d'argent qu'ailleurs, mais où le travail est très dur. On y voit comment ont été traitées les ouvrières, même dans la région de Decazeville, parce qu'une des héroïnes arrive de Decazeville, d'une des mines de charbon. Donc ce sont des petites touches. Je ne veux pas faire une démonstration dans un roman, mais je pense que les gens y prennent ce qu'ils ont envie d'y prendre. Voilà. Voilà. Et alors Jean-Jean, ou les Amants de Bordeaux Rouge, en fait Jean-Jean est un garçon gentil qui se laisse faire par les femmes et qui aime beaucoup les femmes. Donc en fait, lui aura plusieurs femmes dans ce livre.
J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup.
CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30.
On est toujours en compagnie de Colette Berthès pour la présentation de son roman qui vient de paraître, Les Amants de Borde Rouge. Alors, le personnage Jean-Jean est amoureux des femmes et puis se laisse manipuler par les femmes, mais au point peut-être que plutôt vous avez raconté l'histoire de plusieurs femmes à travers ce personnage.
J'ai voulu, dans ce livre, parler d'héroïnes très diverses, de femmes très diverses qui mènent leur vie, certaines en se soumettant, d'autres en combattant, d'autres en finissant par gagner, puisque Palmyre, à la fin, va pratiquement gagner. Il y a aussi un secret de famille, un très lourd secret de famille du côté de Palmyre, voilà.
Ça, ça vous plaît, ça?
Les secrets, oui, j'aime bien.
C'est le côté romancier, en fait.
Voilà, et d'ailleurs, à cause de ce secret de famille, tout un chapitre se passe aussi dans le monde des gitans et des petits cirques de l'époque, qui est aussi un monde que j'aime beaucoup, que j'ai connu quand j'étais petite, ces petits cirques qui venaient sur les places de village, ces familles qui donnaient des petits spectacles. Je me souviens à cette fond, je devais avoir 6-7 ans, j'avais assisté à un petit spectacle de cirque où m'avait amené mon grand-père en plein air sur la place du marché. Et il y avait des petites filles de mon âge qui dansaient sur un fil en tutu. Et pendant des mois ensuite, j'ai rêvé de partir travailler dans un cirque et de faire comme elles, quoi. Donc voilà, j'ai voulu parler de choses aussi qui avaient marqué mon enfance.
Oui, c'était très intéressant parce que tel que vous le décrivez, vous n'osez pas employer le mot, mais on dirait une épopée, hein, en passant dans des endroits très divers et en profitant pour tracer un petit peu les paysages dans lesquels ça se passe, mais pas seulement des paysages statiques, puisque bon, que ce soit les phosphatières ou l'Algérie, ce sont vraiment des dynamiques historiques.
Tout à fait.
1870, pourquoi 1870? C'est parce qu'il est démobilisé. Depuis un moment.
Parce que en 1870, il est repassé à la vie civile, qu'il a sa vie en Algérie, et que quand on arrive après 40 ans, on commence à faire un peu le bilan de sa vie, et que là, le hasard d'une rencontre, d'une part, lui fait rencontrer un jeune militaire de sa région, dont il connaît la famille, et en fait, il recommence à parler, hein, ce qu'on appelait le patois à l'époque. Une langue qu'il n'avait pas parlé depuis 20 ans, qui est sa langue maternelle.
Nostalgie, mal du
voilà.
Pays. Ouais.
Et son père a un grave accident. Son père qui est très âgé, donc puisqu'il a 70 ans, 15 ans, qui continue à travailler comme le faisaient les paysans de l'époque, il ne s'arrêtait que pour mourir, a un grave accident. Et il se rend compte que ses parents risquent de mourir sans qu'il ait le temps de les revoir. Et il se demande ce qu'il fait si loin de chez lui et des siens.
Et alors, comment il rentre dans le Quercy en quittant l'Algérie et en laissant sa femme indigène
et
un enfant
et une fille. Voilà, pourquoi le fait-il? Comment
Il y en a des mystères.
Parce que ça, il faut dire que son épouse, qui est une femme intelligente, refuse de venir, elle. En disant, je serai une étrangère là-bas, je ne serai pas chez moi, on ne m'accueillera pas bien et je serai toujours vue comme... voilà. Donc
cette clairvoyance-là, c'est vous qui l'avez écrite?
C'est moi qui l'ai écrite, mais je pense qu'une femme de cette époque, même encore dans certains pays arabes, il y en a qui peuvent avoir envie de venir ici et de se confronter parce qu'elles se sentent assez fortes à une autre culture, à d'autres mœurs et au regard des autres. Et puis il y en a d'autres qui n'en ont pas la force et le courage parce qu'elles se trouvent, entre guillemets, bien là où elles sont.
Oh ben, je suis sûr qu'il y a des Quercinoises qui n'avaient pas envie d'aller dans une grande ville. Hein.
Ben voilà, exactement, comme j'en connais moi, de très proches, qui ont dû, il y a 30 ou 40 ans, partir vers Dunkerque pour leur travail, et qui, là-bas, ont fait des dépressions et des maladies, jusqu'à ce qu'elles reviennent dans leur Quercy natale.
Des dépressions, dans le schnorr.
Non, oui, ben oui, c'était avant les ch'tis.
Colette Berthès, Les Amants de Borde Rouge, votre édition?
De Boré.
Des choses sous le coude, bien sûr. Quand un livre paraît, ça veut dire qu'il est écrit depuis un moment et que vous avez enchaîné sur autre chose.
Voilà, il était terminé depuis un an. Et autre chose, j'ai eu la chance, parce que ce sont des rencontres en fait, hein, qui me poussent à écrire, j'ai eu la chance, à cause de la mémoire des chemins et des compagnons, de rencontrer, il y a 10 ans, un vieux compagnon, qui m'avait fait rencontrer un autre compagnon qui m'avait aidé pour le livre avec ses renseignements. Et ce vieux compagnon avec qui je suis toujours en contact, il y a 87 ou 8 ans, m'a téléphoné un jour en me disant « une vieille dame nous a donné le cahier » qu'a tenu son père entre 1892 et 1900 de son tour de France. Et c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc j'ai lu ce gros cahier d'écolier, très bien écrit. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est passionnant ce qu'il raconte, ce monsieur. J'en ai parlé à quelqu'un que je ne connaissais que de nom, qui était le directeur du musée du compagnonnage de Tours, qui m'a dit, mais c'est inouï ce document, on n'a jamais eu un document aussi intéressant, il faut le faire publier. Donc avec d'autres personnes, dont le directeur du musée du Tour, dont monsieur Adèle Combert qui est professeur à Toulouse-Mirail, nous sommes en train de travailler sur cette parution et avec monsieur Lasseub qui fait des photos à Saint-Lys, parce que ce monsieur qui s'appelait Bouas est un être extraordinaire. Donc il y aura son journal, mais il y aura aussi une partie sur sa vie que je suis chargée de rédiger. Une partie sur le compagnonnage à cette époque, une partie sur tout ce qui est les photos et les documents. Et ce monsieur Bouas, c'était un pacifiste proche de Jaurès, qui a été blessé pendant la Première Guerre mondiale, qui est devenu maire de Saint-Lys, qui était à la SFIO, qui a fait beaucoup de choses pour sa ville, mais surtout c'était quelqu'un qui, par exemple, a fait un monument aux morts, où il y a la liste des morts sur la mairie, mais où le premier mort en tête au-dessus des autres, et c'est le nom d'un gars qui a été fusillé pour l'exemple. Mmh. Voilà, c'est aussi le gars qui, un jour, pour la fête locale, a décidé qu'avec la Marseillaise, on jouerait l'international. Donc c'était quelqu'un quand même d'assez spécial, et je suis en train d'écrire une vingtaine de pages, une trentaine sur sa vie, pour aller dans ce livre, qui j'espère sera un beau livre. Et je commence à travailler aussi sur une autre histoire qui m'a été soufflée par monsieur Drouillet, qui est le président de Oklahoma Occitania, de Hoc Hoc, et qui commence en France et qui finit dans ce qui était l'Amérique du Nord de l'époque.
C'est ce qui est formidable avec, indépendamment de vos romans qui sont quand même documentés et inscrits dans des périodes, sans être hors sol, puisque on est Algérie, on est phosphatière, on est des choses comme ça pour les amants de Bordeaux-Rouge. Dans l'exil et les barbelés, qui est comment le qualifier ? C'est un document.
Un essai ou un document, un reportage, entre guillemets.
Un reportage, c'est que quand vous les faites paraître, des témoins ou des héritiers ou des enfants de témoins vous font part à nouveau de témoignages sur cette période-là.
Tout à fait.
En l'occurrence, c'est le camp de Jude à cette fois. Et vous avez de quoi enrichir, si ce n'est une réédition, au moins de nouvelles épopées.
Oui, tout à fait. On me raconte des histoires après. Et d'ailleurs, pour les phosphatières, là, j'ai terminé depuis un an et demi. Je suis allée à une conférence à Caylus, justement, sur les phosphatières, il y a 3 semaines à peu près.
Oui, la maison du patrimoine.
Voilà, très intéressante, où j'ai appris encore des choses nouvelles. C'est étonnant.
C'est ce qui est très enrichissant, du coup, quand vous faites des conférences à partir de vos parutions.
Je peux les enrichir, voilà.
Colette Berthès, le dernier ouvrage donc paru, Les Amants de Bordeaux-Rouge, on en entendra certainement parler, puisque il y aura des conférences et sur les phosphatières, et sur la colonisation en Algérie. Et...
Alors là, je suis pas assez douée pour ça, je veux bien donner un petit complément, mais je ne suis pas historienne, et je le dis et je le redis.
C'est une période dont je suis certain qu'en France, en tout cas, on ignore parfaitement comment ça a pu se passer, parce qu'on a l'impression que, un peu comme... Je vais dire des choses qui vont vous horrifier, mais c'est intéressant exprès pour rebondir. Un peu comme en Israël, il y avait une terre à défricher encore, comme s'il n'y avait jamais eu de Palestiniens qui se contentaient de la cueillette et de la chasse.
Voilà, c'est tout à fait pareil. Et dans le Lot, à l'époque, quand on lit les livres, j'ai lu beaucoup de livres sur le Lot du 19e, 1830, 1940. On parle souvent de ces paysans abrutis, qui ne parlent même pas le français, qui vivent de peu, qui grattent le sol. Voilà, un pays sauvage. On en parle comme d'un pays sauvage, oui.
comme si les lumières n'étaient pas passées par là.
Oui, alors que ils vivaient leur vie de paysans qui était très très dure, et c'est exact pour des gens venus de Paris ou même de Toulouse, des bourgeois, ça devait paraître horrifiant de voir des gamins, des penaillés marcher pieds nus dans la boue, des hommes vieux déjà à 40 ans, voilà, enfin, je comprends leur point de vue, entre guillemets.
Colette Berthez, je vous remercie.
Merci de m'avoir accueilli et à bientôt.
Le mag du Kerserouergue, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même punition. Ciao, ciao. Passez une bonne après-midi à l'écoute des programmes de CFM. Soleil.